Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 5, scène 1. Pourquoi Napoléon faisait-il la guerre à la Russie? Parce qu'il était écrit qu'il irait à Dresde, qu'il aurait la tête tournée par la flatterie, qu'il mettrait un uniforme polonais, qu'il subirait l'influence enivrante d'une belle matinée de juin, et enfin qu'il se laisserait emporter par la colère en présence de Kourakine d'abord et de Balachov ensuite. Alexandre, se sentant personnellement offensé, se refusait à toute négociation. Barclay de Tolly mettait tout son soin à bien commander son armée afin de remplir son devoir et de conquérir la réputation d'un grand capitaine. Rostov s'était lancé à la poursuite des Français parce qu'il n'avait pu résister au désir de faire un bon temps de galop sous une pluie unie. Et c'est ainsi qu'agissaient, en conséquence de leurs dispositions particulières, de leurs habitudes, de leurs désirs, les individus qui prenaient part à cette guerre mémorable. Leur appréhension, leur vanité, leur joie, leur critique, tous ces sentiments, provenant de ce qu'ils croyaient être leur libre arbitre, étaient les instruments inconscients de l'histoire et travaillaient, à leur insu, aux résultats dont aujourd'hui seulement on peut se rendre compte. Tel est le sort invariable de tous les agents exécuteurs, d'autant moins libres dans leur action qu'ils sont plus élevés dans la hiérarchie sociale. Aujourd'hui, les hommes de 1812 ont depuis longtemps disparu. Leurs intérêts du moment n'ont laissé aucune trace. Les effets historiques de cette époque nous sont seuls visibles, et nous comprenons comment la Providence a fait parcourir chaque individu, agissant dans des vues personnelles, à l'accomplissement d'une œuvre colossale, dont ni eux, ni même Alexandre et Napoléon n'avaient certainement l'idée. Il serait oiseux, à l'heure qu'il est, de discuter sur les causes qui ont amené les désastres des Français. Ce sont évidemment, d'un côté, leur entrée en Russie dans une saison trop avancée et l'absence de tout préparatif pour une campagne d'hiver, et, de l'autre, le caractère même imprimé à la guerre par l'incendie des villes et l'excitation à la haine de l'ennemi chez le peuple russe. Une armée de 800 000 hommes, la meilleure du monde, ayant à sa tête le plus grand capitaine et devant elle un ennemi deux fois plus faible, guidé par des généraux inexpérimentés, ne devait et ne pouvait succomber que par l'action de ces deux causes. Mais ce qui nous frappe aujourd'hui ne frappait pas les contemporains, et les efforts des Russes et des Français tendaient au contraire à paralyser constamment leur seule chance de salut. Dans les ouvrages historiques de l'année 1812, les auteurs français se donnent beaucoup de mal pour prouver que Napoléon se rendait compte du danger qu'il y avait, pour lui, en faisant cette campagne, à s'étendre dans l'intérieur du pays qu'il cherchait à livrer bataille, que ses maréchaux l'engageaient à s'arrêter à Smolensk, etc., etc. Les auteurs russes, de leur côté, appuient avec autant de force sur le plan arrêté, d'après eux, dès le début de l'invasion, et destiné à attirer, à la façon des sires, Napoléon au cœur même de l'Empire, et ils produisent, à l'appui de leur opinion, bon nombre de suppositions et de déductions tirées des événements qui se passaient à cette époque. Mais ces suppositions et ces déductions appartiennent évidemment à la catégorie des « on dit » sans valeur sérieuse que l'histoire ne saurait admettre sans s'écarter de la vérité, et tous les faits sont là pour les démentir. Que voyons-nous en effet tout d'abord? Nos armées sans communication entre elles, cherchant à se réunir, bien que cette réunion n'offre aucun avantage, à supposer surtout que l'on ait songé à attirer l'ennemi dans l'intérieur du pays. Le camp de Drissa, fortifié d'après la théorie de Pfuhl, dans l'idée bien arrêtée de ne pas se retirer au-delà. L'empereur suivant l'armée, non pas pour opérer une retraite, mais pour exciter les soldats, par sa présence, et défendre chaque pouce de terrain contre l'invasion étrangère, et adressant de violents reproches au général en chef qui continue à se retirer. Comment alors aurait-il pu imaginer un moment que Moscou serait incendiée, ou même que l'ennemi fût déjà entré à Smolensk? Aussi son irritation éclata-t-elle quand il apprend qu'aucune grande bataille n'a été livrée, malgré la jonction des deux armées, et que Smolensk est pris et brûlé. Les militaires et le peuple s'indignent également de cette retraite connue. Et pendant ce temps, les faits s'accomplissent, non par hasard ou en vertu d'un plan auquel personne ne croit, mais en conséquence des intrigues, des désirs et des efforts de toutes sortes, de ceux qui agissent dans leur propre intérêt ou sans préméditation. Que faisons-nous cependant? Nous cherchons à concentrer nos deux armées avant de livrer bataille, et à cet effet, nous nous retirons jusqu'à Smolensk en entraînant les Français à notre suite. Mais cette manœuvre n'a pas le résultat désiré, parce que Barclay de Tolly est un Allemand impopulaire, parce que Bagration, qui commande la seconde armée et qui le déteste, ne tient pas à se trouver sous les ordres d'un inférieur et qui retarde, autant que possible, cette jonction de nos forces. Quant à la présence de l'empereur, au lieu de faire naître l'enthousiasme, elle fomente la discorde et détruit toute unité d'action. Paolucci, qui ambitionne le grade de général, parvient à l'influencer. Le plan de Pfoul est abandonné et la direction de l'ensemble des opérations est remise à Barclay de Tolly, dont on limite cependant le pouvoir à cause du peu de confiance qu'il inspire. Grâce à ses divisions intestines, à ses rivalités, à l'impopularité du général en chef, il devient impossible de livrer un combat décisif, et pendant que l'irritation générale s'en accroît, et, avec elle, la haine des Allemands, le sentiment patriotique se réveille de tous côtés avec violence. L'empereur quitte enfin l'armée, sous le prétexte, le seul et le meilleur qu'on ait pu trouver, de chauffer à blanc l'enthousiasme du peuple dans les deux capitales, et son séjour inattendu à Moscou contribue puissamment à organiser la résistance future du pays. Bien que l'empereur ne soit plus là, la position du commandant en chef se complique de jour en jour. Bennigsen, le grand-duc et un essaim de généraux, reste auprès de lui afin de surveiller ses actes et de soutenir au besoin son énergie. Mais Barclay de Tolly, se sentant de plus en plus sous la surveillance incessante des yeux de l'empereur, n'en devient que plus prudent et évite toute bataille. Sa prudence est blâmée par le Césarévitch, qui va jusqu'à parler de trahison à mots ouverts et qui exige un engagement immédiat. Lubomirski, Bronitsky, Vlotsky et d'autres font tant de bruit que, sous prétexte de documents importants à remettre à l'empereur, Barclay renvoie peu à peu les aides de camp généraux polonais et entre en lutte ouverte avec le grand-duc et Bennigsen. Enfin, et malgré l'opposition de Bagration, les armées se réunissent à Smolensk. Bagration arrive en voiture à la maison occupée par Barclay de Tolly, qui met son écharpe pour le recevoir et pour faire son rapport à son ancien en grade. Bagration, dans un élan patriotique d'abnégation, se soumet à Barclay, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un avis complètement opposé au sien. Il correspond directement avec l'empereur, selon les ordres de Sa Majesté, et écrit ceci à Arakcheyev.
Malgré le désir de mon souverain, je ne puis rester plus longtemps avec le ministre.
C'est ainsi qu'il nommait Barclay.
Au nom de Dieu, envoyez-moi n'importe où, donnez-moi un régiment à commander, mais de grâce, tirez-moi d'ici. Le quartier général est plein d'Allemands qui rendent la vie impossible aux Russes. C'est un gâchis complet. Je croyais servir l'empereur et la patrie, mais il se trouve que je ne sers que Barclay. Je vous avoue que je m'y refuse.
Les Bronotiski et les Wintzingerode continuent à semer la zizanie entre les commandants en chef et à empêcher par suite toute unité de vue. On se prépare à attaquer les Français devant Smolensk. On envoie un général pour examiner la position. Et ce général, ennemi de Barclay, passe la journée chez un des commandants de corps et critique, en revenant, le champ de bataille qu'il n'a même pas vu. Pendant que l'on intrigue et que l'on discute sur le terrain où doit avoir lieu l'engagement, et qu'on cherche à découvrir où sont les Français, ceux-ci tombent sur la division de Neverovski et arrivent sur les murs même de Smolensk. Il n'y a plus à hésiter. Pour sauver nos communications, il faut accepter, bon gré, mal gré, le combat. Il est livré. Des milliers d'hommes tombent des deux côtés et Smolensk est abandonné en dépit de la volonté souveraine et du désir du peuple. La ville est brûlée par ses habitants que le gouverneur a trompés. Ruinés et ne pensant qu'à leur malheur personnel, ils vont à Moscou servir d'exemple à leurs frères et les exciter à la haine de l'ennemi. Pendant ce temps, nous continuons notre retraite et Napoléon continue de son côté à s'avancer en triomphateur sans se douter du danger qui le menace. Et c'est ainsi que se décide, contre toute attente, et sa perte est notre salut.